La foi, c'est la rencontre de l'amour de Dieu et de la liberté de la personne humaine dans le sein et avec le soutien de l'Église. Et cette visite de Jésus chez Zachée en est un exemple magnifique, aussi difficile à prononcer en français, Jésus chez Zachée. Qu'elle est d'abord joyeuse, heureuse et surtout très éclairante sur l'action de la grâce, sur la réalité de l'amour de Dieu, sur la réponse de l'homme, et nous verrons dans un troisième temps sur la place de l'Église. Pour comprendre d'abord l'action de la grâce, je vous propose de comparer cette rencontre à celle de Jésus avec le publicain Matthieu, celui qui est devenu l'évangéliste. Matthieu et Zachée étaient donc tous deux des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts ou de taxes, des personnes pas fréquentables, assez corrompues, nous l'avons vu dimanche dernier avec la parabole du pharisien et du publicain. Ils ont fait tous les deux, l'évangile le raconte, un repas en l'honneur de Jésus, en l'invitant chez eux, et en attirant ainsi les critiques, les foudres, tous récriminés dans un cas comme dans l'autre, parce qu'ils avaient été l'un et l'autre saisis par le regard de Jésus. Nous le chanterons tout à l'heure, « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, laisse-toi regarder car il t'aime. » Le regard de Jésus, voilà un bon sujet de prière pour nous ces jours-ci, de pouvoir accueillir ce regard. J'ai lu que saint Augustin, dans une de ses homilies, où il commentait la confession de foi du bon larron sur la croix, cette conversion in extremis du bon larron, imaginait qu'il le rencontrait au paradis. Voilà un bon sujet d'imagination. Et il lui demandait, mais comment t'as fait? Comment t'as fait sur la croix en plein supplice? Comment t'as fait pour reconnaître en Jésus le Sauveur? Alors que même les docteurs de la loi, les savants de l'époque, n'y étaient pas arrivés. Et il imagine cette réponse du bon larron. Jésus m'a regardé, et dans son regard, j'ai tout compris. Dans le regard de Jésus, j'ai tout compris. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi son regard, un regard long de promesses. Alors la différence entre Zachée et Matthieu, c'est que Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Il est même allé jusqu'à courir en avant, oubliant tout, emporté par enthousiaste, aller en avant, il monte sur un arbre, tandis que Jésus était allé chercher Matthieu à son bureau de douane. Il l'avait appelé, « Suis-moi ». En réalité, c'est l'Esprit du Seigneur qui était allé chercher Zachée. Ce que la tradition de l'Église, ce que la théologie appelle la grâce prévenante, dont ce texte est une des plus belles illustrations. Et le catéchisme explique, chaque fois que nous commençons à prier Jésus, c'est le Saint-Esprit qui nous attire sur le chemin de la prière, par sa grâce prévenante. C'est toujours Dieu qui a l'initiative, c'est lui qui nous appelle. Chaque fois que nous commençons à prier Jésus, en réalité, c'est l'Esprit Saint qui est déjà à l'œuvre. C'était la prière d'ouverture que nous avions au deuxième dimanche d'octobre. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance. Que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien. Dans deux jours, nous fêtons la Toussaint. Une des préfaces des saints dit « Seigneur, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes qui sont parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. » C'est beau cette phrase. Nous, Seigneur, nous célébrons les prévenances de ton amour. Il faut imaginer, on le disait à l'époque, probablement moins aujourd'hui, les prévenances du jeune homme pour sa fiancée. C'est beau la prévenance, plein de délicatesse, attentionnée. vraiment attentif à pouvoir se contrôler, se maîtriser lui-même. Cette grâce de Dieu, elle nous devance et elle ne nous lâche pas. Elle nous accompagne toujours, elle va chercher Zachée. Elle lui donne suffisamment de confiance, elle le remplit de joie quand Jésus lui dit « Je veux demeurer chez toi ». Et elle l'inspire ensuite, nous l'avons lu, entendu, elle l'inspire dans son engagement. Quand le Seigneur nous saisit, il ne nous lâche pas. Nous, nous pouvons le lâcher, mais lui ne nous lâche jamais. Au bon larron, Jésus ne se contente pas de dire « Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé ». Il dit « Avec moi, aujourd'hui, aujourd'hui avec moi au paradis ». À Zachée, Jésus ne dit pas « Allez, descends, pas seulement de ton arbre, descends dans la profondeur de ton cœur, rentre en toi-même, retrouve la vérité de ton être, trouve la vérité de ta vie ». Non, il lui dit « Je veux moi demeurer chez toi ». Une fois qu'on a compris ça, entendu cela, on peut passer au deuxième temps, qui est la réponse de l'homme, la réponse libre de Zachée. Voyez de quelle façon il dépasse l'hostilité de l'entourage. Il s'extrait du regard des autres, regard évidemment critique, et il s'engage résolument sur le chemin du bien. « Je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. » C'est pas rien. La moitié de mes biens. Et pour Zachée, ce chemin du bien, c'est le chemin de la réparation. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Mes amis, il n'y a pas de pardon possible. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de conversion. S'il n'y a pas de réparation, nous pensons toujours qu'un simple, une simple expression suffit de dire « Oh, pardonne-moi, excuse-moi, je n'ai pas fait exprès ». Il n'y a pas de pardon possible sans réparation parce que le mal ne disparaît pas comme ça. Le mal ne s'efface pas. Le mal ne s'oublie pas. Le plus souvent, il est profondément gravé. Le mal se répare. La réparation. Les péchés, nos offenses, celles que nous subissons comme celles que nous commettons, pour prendre un terme moderne, elles ne sont pas biodégradables. Ça ne s'en va pas comme ça. C'est très comparable à tous les déchets qu'on trouve maintenant aujourd'hui partout dans la nature. Le Seigneur ouvre nos yeux et surtout il ouvre notre cœur à la laideur du mal. C'est même une grâce à demander. À la laideur du mal, pour que nous ne le commettions plus et pour que nous le réparions. Il ne faut pas oublier ce deuxième terme. L'un ne va pas sans l'autre et même l'un ne va pas sans les autres pour le bien à faire comme pour le mal à éviter et à réparer. Et c'est là qu'intervient l'Église. L'Assemblée des Saints, telle que nous allons la célébrer au jour de la Toussaint. L'Assemblée des Saints qui le sont devenus. L'Assemblée des saints, de ceux et celles qui, comme nous, voulons le devenir, qui savent que l'Église, c'est le lieu privilégié, idéal, donné par Dieu pour notre conversion, pour notre progrès, pour notre croissance, pour notre bien. Et la tradition avait une expression remarquable qui parlait du trésor de grâce. Le trésor de grâce dans lequel nous venons puiser. C'est ce que nous vivons à chaque messe. Nous venons puiser dans le trésor de grâce de l'Église. C'est un autre nom de la communion des saints. Si à l'occasion de la Toussaint, vous rouvrez le catéchisme de l'Église et vous relisez les deux pages sur la communion des saints, vous verrez que la communion des saints désigne à la fois la communion aux choses saintes, c'est-à-dire les sacrements, et la communion des saints, c'est-à-dire des personnes saintes entre elles. La communion aux choses saintes. Ce trésor de grâce inépuisable qui se renouvelle sans cesse. Élie l'avait prophétisé à la veuve de Sarepta. Vase d'huile jamais ne s'épuisera. C'est le meilleur élixir, on va même dire c'est le seul élixir pour guérir les péchés, et réparer les fautes. Réparer les fautes, c'est la raison d'être, mercredi, au lendemain de la Toussaint, de la prière pour tous les défunts. Parce que cette réparation des fautes, cette purification des péchés, si nous ne la vivons pas pour nous en cette vie, ce sont nos proches, ce sont nos frères et sœurs qui devront le faire pour nous après notre mort. Après notre mort, il faudra bien que quelqu'un, que les uns et les autres, que l'Église, que nos frères, prient pour nous, nous aident à cette purification et viennent réparer tout le mal que nous aurons fait. Le catéchisme cite dans son chapitre sur les fins dernières, sur le jugement, cette phrase glaçante de saint Augustin qui disait « Tout le mal que font les méchants, le terme est excessif, tout le mal que font les hommes est enregistré et ils ne le savent pas. » Et on pourrait ajouter, non seulement ils ne le savent pas, mais il ne disparaît pas comme ça. Quand j'étais curé de Saint-Louis-d'Antin, j'organisais tous les mois pour les confesseurs une séance de formation ou d'information sur les sujets. Il y avait une trentaine, quarantaine de confesseurs, souvent âgés. Et à l'époque, c'était il y a plus d'une quinzaine d'années, j'avais organisé une fois une formation sur un des nouveaux péchés du moment qu'on appelle pudiquement le vagabondage sur Internet. Comme ils étaient assez anciens, j'avais fait venir un de mes copains qui était spécialiste, qui leur a expliqué comment tout ça marche. Et il leur avait notamment dit, tout ce qu'on consulte sur son ordinateur reste dans l'ordinateur. Et il rit encore du regard paniqué de certains d'entre eux. Le mal que j'ai fait, Seigneur, le mal que j'ai vu et parfois que j'ai laissé faire, le mal que je vois, je vais le réparer. C'est ça le chemin de la sainteté. La foi, c'est la rencontre de l'amour de Dieu avec la liberté de la personne, dans le sein et avec le soutien de l'Église. C'est ce que nous professons finalement chaque fois que nous faisons le signe de croix, l'amour du Père. La liberté de la personne, ma liberté, dans l'esprit et dans l'Église. Si nous pouvions prendre conscience, si nous savions le trésor de grâce que le Christ a confié à son Église, nous irions, pour reprendre une expression d'Isaïe, le cantique d'Isaïe, nous irions puiser, comme Zachée, dans la joie aux sources vives du salut.